Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. On en parle aujourd'hui dans Résonance. Handicap et pratique artistique, quelle place, quelle réalité, quels enjeux aujourd'hui dans les territoires de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Adoptée en 2015, la réforme territoriale a fait passer les régions françaises de 22 à 13. C'est ainsi que la région Rhône-Alpes, composée de 8 départements, est devenue la région Auvergne-Rhône-Alpes, entraînant un élargissement territorial qui la porte aujourd'hui à 12 départements. Avec la mise en place de ce nouvel espace territorial, il nous a semblé intéressant et pertinent de se pencher sur la question de l'accès aux pratiques artistiques des personnes en situation de handicap dans l'ensemble de ces territoires constituant la nouvelle région, en réalisant 4 à 5 portraits radiophoniques au sein de chacun de ces territoires. Ces séries de portraits radiophoniques souhaitent contribuer à la constitution d'un état des lieux, non exhaustif bien sûr, de la situation dans ce domaine. La multiplicité des témoignages, des points de vue exprimés par les différents acteurs rencontrés nous permettront d'avoir une représentation un petit peu plus précise du terrain, des initiatives, des avancées, des envies, des besoins, de la réalité et des problématiques telles qu'elles se dessinent aujourd'hui dans cet espace territorial. Résonance sur Radio B, handicap et pratique artistique, quelle place, quelle réalité, quels enjeux aujourd'hui dans les territoires de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. L'homme pense parce qu'il existe, écrit le philosophe Jacques Rancière, reste que la pensée doit se dire, se communiquer à d'autres êtres pensants. Et Charles Gardou précise de son côté, encore que vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. Donc travailler à un développement inclusif et plus globalement à une culture inclusive nécessite que chacun, qui que nous soyons, puisse avoir accès aux différents espaces, lieux de culture, d'expression et de pratique artistique. Pour appréhender cette réflexion de manière un peu plus concrète, Résonance a pris la route et celle-ci nous a conduit aujourd'hui dans le département de la Haute-Savoie, à Alby-sur-Chéran, où nous avons installé nos micros au pôle culturel et sportif de cette commune. Et je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de la municipalité d'Alby-sur-Chéran et Madame aussi Christiane Dubonnet, directrice de l'école de musique du pays d'Alby, de nous avoir permis et mis à disposition ce lieu pour réaliser la présente émission qui était enregistrée le 27 avril dernier. Alors, pour évoquer cette problématique, plusieurs invités à mes côtés, et j'ai le plaisir tout d'abord de pouvoir accueillir à ce micro Laetitia Fricot. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes chargée, en tout cas coordinatrice d'éducation artistique et culturelle à la direction des affaires culturelles du Conseil départemental de Haute-Savoie.
Tout à fait.
Voilà. À vos côtés, Christiane Dubonnet. Bonjour.
Bonjour.
Et je le disais justement, vous remerciant pour cet accueil, vous êtes la directrice de l'école de musique du pays d'Albi.
Oui, et je tiens à préciser que il ne s'agit pas d'une municipalité, mais d'un syndicat intercommunal.
Syndicat intercommunal.
Qui regroupe plusieurs communes.
Parfait. Peut-être aussi, je continue à vos côtés. Jean-Paul Audiot, vous êtes le directeur du Conservatoire de musique à rayonnement régional à Annecy.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être là aussi. Ça va éclairer aussi tous nos points de vue. Et puis, je continue aussi à mes côtés. Se trouve aussi Monsieur Revillon. Vous êtes le Bonjour, pardon d'abord.
Oui.
Et vous êtes premier vice-président de la communauté de communes de Zus-et-Rhône.
Us-et-Rhône,
voilà. Merci d'être là avec nous aussi. Je continue également, beaucoup d'invités à côté de, pour cette émission. Jacques Archinard, bonjour.
Bonjour.
Merci aussi d'être là. Et vous êtes vice-président chargé de la culture et des sports au syndicat intercommunal du Pays d'Albi.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Et puis, également à vos côtés, Madame Claire Gilliane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi membre du syndicat intercommunal du Pays d'Albi et vous êtes vice-présidente, plutôt chargée aussi de l'action sociale.
Voilà, de l'action sociale qui regroupe donc la petite enfance.
Voilà.
Avec un petit volet gérontologie.
Gérontologie aussi, voilà. Également.
Et action sociale en général.
Très bien. Merci d'être là. Et puis, Marie-Astrid Barre, bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes donc aussi directrice de l'école de musique de la Clé des Us, qui est à Frangy et qui dépend de la communauté dont Monsieur Revillon est le vice-président.
Tout à fait. La communauté de communes Us-et-Rhône.
Voilà. Donc, merci alors à tous d'être là. Et peut-être... on pourrait essayer de commencer ainsi notre échange en se demandant justement l'art, le spectacle vivant, les pratiques artistiques, est-ce qu'elles peuvent être justement un espace plus particulier dans lequel chacun, avec ses singularités, avec son histoire, pour que ce soit un espace où on puisse se rencontrer, oser ensemble, oser faire. Est-ce que les pratiques artistiques ne pourraient pas être un espace où on apprenne, où on réapprenne peut-être aussi, à découvrir l'autre, être à l'écoute de l'autre, et que du coup, elles puissent nous permettre finalement de poser un autre regard sur quelquefois des catégories de personnes qu'on catégorise assez facilement, ou quelquefois on pourrait pousser aussi le trait, on entend certaines... On peut attribuer que certaines paroles soient de vraies paroles, et puis parce qu'elles émanent de certains publics, on pourrait se dire que ces paroles sont plutôt bruiteuses ou moins interprétées comme des paroles signifiantes, et que l'art peut-être, ou les pratiques artistiques, serait un endroit où on peut re-questionner finalement un peu toutes ces données, et peut-être il pourrait nous aider à essayer de bâtir peut-être une société plus inclusive. Voilà, j'avais un peu envie d'entrer, la question est un peu large, mais peut-être que chacun a son point de vue en tout cas, on pourrait essayer d'entrer par ce côté pour essayer de se dire qu'on ne va, en tout cas dans le cadre de cet échange, essayer de moins de parler d'une pratique artistique spécifique pour un plus spécifique, mais que finalement c'est une donnée globale qui concerne l'ensemble de la population, et qu'on soit élu, qu'on soit responsable d'un établissement culturel et autres, finalement, nous sommes tous concernés à un moment ou à un autre par cette problématique. Je ne sais pas qui aurait envie. Oui, bien sûr, Monsieur Jacques Archinard, je vous en prie.
Oui, je vous remercie. Oui, effectivement, les élus sont interpellés par le regard qu'on porte sur, sur le handicap. Sur Héry-sur-Albi, l'installation du centre de l'Héridan, hein, qui est un centre qui accueille des personnes handicapées, personnes handicapées moteurs, sur le plan moteur et sur le plan cérébral, avait déjà interpellé notre commune.
Oui.
On a sollicité l'école de musique dans son projet à cette ouverture en direction de tous les publics, et on se rend bien compte, nous en tant qu'élus, ne serait-ce que d'accueillir une structure nous a interpellé par rapport au regard que chacun peut avoir sur les personnes handicapées. Et la culture, justement, est un moyen très fort pour lever ces barrières et aller à la rencontre. Alors, peut-être que Madame Dubonnet en parlera tout à l'heure, mais lors de l'inauguration du pôle culturel, suite à des pratiques artistiques qui ont été initiées dans le cadre du projet PASS, une troupe de personnes handicapées s'est créée, Héridance, qui est basée sur cette structure à l'Héridan, qui est animée par des professionnels et dont les membres sont des personnes handicapées. Et tout simplement, ils ont dansé dans leur fauteuil le jour de l'inauguration. Et l'émotion que ça a créé chez tous, je peux vous affirmer que ça a été un très très grand moment. Et que le regard que chacun a pu poser à ce moment-là sur les personnes handicapées a été totalement renouvelé.
Voilà, on voit qu'en même temps, le handicap bouscule par sa présence, hein, bouscule aussi les positionnements, les regards, les positionnements professionnels aussi. Certainement, on aura l'occasion au cours de cet échange aussi d'aborder aussi cette question-là. Mais effectivement, peut-être Christiane Dubonnet, dans la continuité de Monsieur Archinard, peut-être de nous en dire un tout petit peu plus sur cette rencontre avec ce travail de Héridance éventuellement.
Oui. Ce moment de l'inauguration dont parlait Jacques à l'instant a mis en valeur, tout à l'heure vous parliez de valoriser l'existant, ça a vraiment été un choix que les élus ont fait, de mettre en valeur tout ce travail de pratique artistique qui était mené dans les Ridans. Et cette troupe, donc, avec des personnes porteuses de handicap et des valides, c'est pas une génération spontanée, hein. C'est un travail qui a été de longue haleine.
Et vous savez depuis combien de temps ce travail...
Ça fait depuis fin 2015.
Fin 2015. Ouais,
fin 2015 que tout s'est mis en route tout doucement. Mmh. Et avec le volet plutôt axé sur le corporel et puis un volet axé sur la pratique vocale. Mmh. Et quand vous dites que l'homme pense parce qu'il existe et qu'il n'y a rien de plus dramatique que de vivre sans exister, moi aussi j'ai été témoin, et je crois aussi Madame Claire, d'un événement très spécifique qui s'est passé à la maison de retraite à l'EHPAD de Gruffy en janvier 2017, où ça a été la première lecture en public d'un atelier. Moi, j'ai vécu ça comme un événement artistique, d'abord. Je tiens à le dire, c'était vraiment un événement artistique et un événement profondément humain. Et tout doucement, tout le monde s'est mis à participer et on a senti qu'on était vraiment dans un temps fondamental. Voilà.
Donc l'autre, le différent, la personne singulière, à la fois effectivement ça peut déstabiliser, mais quelque part comme ça trouble aussi, ça bouscule, mais aussi c'est des révélateurs forts aussi de qu'est-ce que peut être ou comment, finalement la question c'est comment être ensemble à plusieurs. C'est comment on peut vivre ensemble à plusieurs, quoi que nous soyons, mais comment du coup il peut être construit avec l'autre. On peut être juxtaposé les uns à côté des autres, mais pas forcément avec. Être avec, finalement, c'est aussi finalement un acte fort. C'est-à-dire je décide de pouvoir être avec l'autre, et donc du coup, il ne peut pas se formaliser comme ça. Il y a besoin que je fasse exister. Qu'est-ce que c'est que ce être avec ? Et peut-être aussi que le handicap vient encore un petit peu plus nous interpeller dans comment ce commun qu'est notre société, comment se être ensemble à plusieurs, comment on peut arriver véritablement à le faire exister, où chacun a sa pleine place, pleine et entière, à la fois de parole, de décision, de contribution, et de faire en sorte que, effectivement, ça vient nourrir les uns et les autres, et que peut-être que l'art, lui, en tant que tel, peut nous permettre, parce que peut-être au travers de celui-ci, peut se redistribuer des compétences, des manières de faire, et que au travers de ça, ça fait changer un petit peu peut-être les catégories ou les étiquettes, quelquefois, qu'ils sont posées. Peut-être, Jean-Paul Audio, en rebondissant justement à partir des témoignages déjà que nous venons d'entendre, le Conservatoire est déjà engagé depuis pas mal d'années aussi dans cette attention, en tout cas à accueillir des élèves ou des adultes en situation de handicap en son sein. Il était assez précurseur, je trouve aussi à l'époque, par rapport à l'équivalence d'autorité d'institution, un conservatoire à rayonnement régional. Ils n'étaient pas si nombreux, si je pouvais dire, quand les choses ont commencé à cette époque-là à s'intéresser à cette question. Et ça a été le cas, justement, à Annecy.
Alors, ça fait 15 ans.
Voilà.
Donc, c'est très loin. Et
c'est loin
c'est
déjà,
vrai
hein.
qu'il n'y avait qu'un seul conservatoire en France qui avait mené des ateliers handicap. C'était à Dieppe, en Normandie. Mmh. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce qu'il faut trouver des personnels qui soient formés pour le faire. Donc on a eu la chance que deux professeurs acceptent de faire une longue formation. Là aussi, ça dépend de la municipalité à l'époque, qui accepte d'envoyer des professeurs en stage. Mmh. C'est des formations qui sont longues, qui ne sont pas toujours dans le département de la Haute-Savoie. Donc accepter de faire partir deux professeurs pendant une semaine de stage tous les 2-3 mois, par exemple,
c'est
à l'autre bout de la France, etc. Donc, il y a un investissement évident de la collectivité dans la formation des enseignants. Après, on s'est rendu compte que c'était très difficile aussi de faire venir les familles dans un conservatoire, puisque ce n'était pas un habitus de penser que le conservatoire était une école presque supérieure pour faire une élite de la musique et de la danse et du théâtre, et qu'un enfant handicapé n'avait peut-être pas sa place à l'intérieur. Donc finalement, on s'est trouvé devant la réalité d'être obligé de faire une vraie campagne de publicité, donc de passer par les IME, de passer par les orthophonistes, de passer par les associations de handicap en Haute-Savoie pour leur dire, mais là, le conservatoire ouvre des classes pour les enfants handicapés. La deuxième chose qui était très difficile, c'est que les familles, après, ont quand même peur de confier leurs enfants. Et on a eu des questions, effectivement, par rapport à la formation des enseignants, comment on fait pour inscrire ses enfants, etc. Donc, ça a été une deuxième réflexion aussi, après la formation des enseignants et faire savoir qu'on avait ces ateliers. Ça n'est pas simple. Je crois qu'aujourd'hui, on a 30 enfants handicapés et adolescents.
C'est très important, déjà.
Oui, c'est beaucoup. Sur 2130 élèves, on a encore de la marge.
Oui, c'est vrai.
Mais on voit bien que les 30 sont bien installés dans le conservatoire, surtout les familles. Et cette année, on a créé un atelier spécifique pour les enfants autistes avec une chercheuse qui est en résidence au conservatoire. On est en train de développer un instrument augmenté électronique pour que les enfants analysent les sons et puissent évidemment être sensibilisés encore plus au son et à la musique, parce qu'on sait que la musique intervient beaucoup sur un émissaire du cerveau et notamment chez les autistes. Donc il y a tout ce travail qu'on est en train de développer. Donc on a une chercheuse à temps plein pendant un an grâce à la fondation de l'université. Et là, c'est aussi pour nous du bonheur. Donc, quand on rencontre les familles, on a 6 enfants qui sont à peu près dans la même tranche d'âge qui sont autistes. Quand on rencontre les familles, j'ai fait une réunion avec ces familles et qu'on leur dit qu'on est en train de faire une immense recherche avec notamment un professeur en psychologie de l'Université de Grenoble et une chercheuse qui va être à demeure au conservatoire pendant un an pour trouver cet instrument augmenté, qu'il y a des espoirs qu'aux États-Unis, il y a des grandes études sur ce travail du son pour les autistes. Vous imaginez que vous avez des parents face à vous, c'est le bonheur de ces parents qui me fait le plus plaisir. C'est-à-dire que sur les 30 enfants handicapés, avec 2130 élèves, c'est des familles que je connais bien parce qu'elles me saluent, elles sont toujours très enclines à remercier l'institution. Le service public. Je terminerai, c'est que je pense que cette question du handicap est une question de service public. Et ça, c'est très, très important. Il faut y mettre des moyens. Il ne suffit pas de mettre des ascenseurs. Mais je pense qu'il est très important de mettre des moyens humains derrière tout ça. J'ai formé les enseignants, je l'ai dit. Et puis après, ça coûte forcément, mais c'est aussi notre rôle. Puis dans un établissement, je terminerai là-dessus, dans un établissement comme le nôtre, c'est aussi cette mixité sociale, culturelle. On voit des enfants qui viennent faire de la musique dans ces ateliers handicap qui ne sont pas des enfants de famille musicienne, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres. et finalement, on leur apporte un immense bonheur. On est aussi surpris. Je peux être très bavard. Voilà.
Il n'y a aucun souci. Mais je trouve que je vous en prie.
Là où je suis vraiment toujours ébahi, c'est de me dire que même chez les enseignants, ils ont une patience avec les enfants. Ils en ont moins avec les enfants valides. Et finalement, quand je leur pose la question, ils me disent « c'est normal ». Parce que finalement, les enfants valides, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Et finalement, ils ne prennent pas toujours cette chance d'apprendre la musique. Et ceux qui sont malheureusement empêchés par ces handicaps, ils ont une envie avec des parents derrière formidables qui n'arrêtent pas de les transporter, etc. Parce qu'il y a des fauteuils roulants, il y a des handicaps lourds. Voilà, ce que je voulais dire, c'est pour moi... Je vais terminer ma carrière en me disant que je suis fier d'avoir fait ça dans un conservatoire et ça restera une grande expérience pour moi.
J'imagine. On voit bien qu'il y a les idées. Hein, on connaît tous. Il y a déjà la loi 75, il y a la loi 2005. Alors là, qui est venue justement vis-à-vis des établissements publics et culturels. Augmenter un peu la demande, et vous avez raison Jean-Paul d'insister sur le fait qu'il n'y a pas seulement l'accès au bâti, mais il y a l'accès au contenu. Alors certes, l'accès au contenu, c'est une question beaucoup plus délicate et qui va aussi dans le propos que je faisais de l'émission, le être avec à plusieurs, ou entendre une parole, une vraie parole, et non pas l'attribuer comme une parole bruiteuse, c'est lui donner tout son sens, lui donner toute sa force. Et ça, peut-être que quelquefois, on est un peu en difficulté justement pour attribuer que les expressions qui peuvent émettre ces personnes-là puissent être vraiment entendues, donc c'est affaire d'interprétation là aussi, de la parole aussi de ces personnes et de la place de cette parole dans notre société. Alors peut-être aussi Marie-Astrid, comme ça pour compléter un peu déjà des aspects concrets de terrain, là aussi avec l'école de la Clé des Us. À l'inverse de ce que exposait Jean-Paul Audiot pour le Conservatoire d'Annecy, là, il y a un lien direct avec une institution médico-sociale, le FAM, donc la ferme des Roches. Et c'est aussi un peu à partir de là que s'est construit cette présence, cette collaboration pour le moment et ce partenariat avec l'école de musique.
Oui, tout à fait. Donc nous avons un partenariat qui s'est mis en place donc à partir de 2013 avec le foyer d'accueil médicalisé La Ferme des Roches, qui est située sur la commune de Chaumont, donc à 4 km de notre école de musique. Et donc le temps de la mise en place, de justement la sensibilisation de l'équipe pédagogique et l'accompagnement, une certaine formation aussi. Nous en sommes maintenant à notre deuxième année d'action. Voilà, donc nous avons commencé des ateliers en octobre donc de 2016, voilà, en octobre 2016, tout à fait. Et donc c'est quelque chose, c'est un projet donc qui personnellement me tenait très à cœur, et je me rends compte qui tient à cœur à toute l'équipe pédagogique, bien que toute l'équipe ne prenne pas une part concrète dans les ateliers, mais c'est quelque chose qui appartient à l'école. Les résidents du foyer d'accueil qui participent aux ateliers de musique viennent dans l'école de musique. Certains professeurs, donc pour l'instant nous sommes un binôme de professeurs à encadrer et à animer l'atelier, mais certains professeurs sont venus jouer dans l'atelier, d'autres sont venus assister et participer à l'atelier tout simplement. Nous avons aussi donc une partie du projet, c'est faire donc un atelier de pratique artistique, et nous avons aussi voulu avoir un volet musique vivante, donc qui se concrétise par un concert qui est proposé par l'équipe pédagogique et certains grands élèves de l'école de musique. Donc l'année dernière, on a donné un concert. Ça a été l'occasion aussi d'avoir des résidents de plusieurs foyers d'accueil médicalisés en public. Cette année, nous allons aller directement sur place au foyer d'accueil médicalisé. Voilà. Et nous sommes maintenant dans la réflexion comment donner la place à ces résidents, comment leur donner une place d'usager à part entière de l'école de musique. Pour l'instant, c'est un partenariat qui est pris en charge financièrement, qui est soutenu par le département. Certains ateliers sont financés par le foyer d'accueil. Ça reste un atelier, j'allais dire, en huis clos, c'est-à-dire que tel qu'il est organisé pour l'instant, les résidents ne croisent pas, ne font pas, ils font pas partie de la vie de l'école telle qu'on peut l'entendre. Quand ils viennent, il n'y a personne dans les locaux. Ce n'est pas un souhait, c'est de les exclure, loin de là. C'est-à-dire que ça s'est organisé comme ça. Ils viennent le lundi après-midi parce que c'est bien pour leur emploi du temps, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de cours à ce moment-là et qu'il y a de la place dans l'école. Mais c'est quelque chose maintenant. Nous sentons prêts à envisager des ponts. Et ça demande du temps dans les mentalités aussi pour les professeurs, savoir comment réussir à créer des ponts entre cet atelier et les enseignements. Et maintenant, on se sent prêts aussi et on souhaite pouvoir proposer un atelier à la population.
Ce qui est aussi important, ce qu'on entendait aussi dans les propos de Jean-Paul Audiot tout à l'heure, c'est que là aussi, les usagers, les résidents du FAM viennent aussi à l'école de musique. Et là, c'était tellement important aussi de pouvoir, on parlait de l'importance pour ces familles et leurs enfants d'être accueillis dans un lieu public, culturel, où tout un chacun peut justement venir, mais que jusqu'à présent, on n'avait encore pas autant l'occasion que cela pour ces publics-là, en temps de se dire, de s'autoriser tout simplement à pouvoir être dans un lieu de pratique.
Et c'est là, enfin, nous en tout cas, ce qui nous touche particulièrement, c'est que vraiment, on se rend compte que ça a été la rencontre entre deux mondes qui vivent de manière complètement parallèle. Et voilà, la réaction des professeurs de l'équipe, la première fois qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir cet accompagnement, qui a été réalisé par Résonance Contemporaine, rien que le fait de voir des vidéos, de pouvoir avoir une réflexion sur comment envisager autrement notre enseignement, la transmission musicale, ça a été un vrai bouleversement. Même pour ceux qui finalement concrètement n'ont jamais été au contact physique de ces personnes, de ces résidents, mais le fait que ça existe et qu'on en parle souvent et ça révolutionne vraiment leur manière de transmission. Et ce que je voulais aussi rebondir sur ce que disait Jean-Paul Audiou juste à l'instant sur le fait que ça doit être vraiment une mission de service public, c'est pour moi, c'est très important et je me rends compte, et je crois qu'on le vit chacun au quotidien, qu'il y a une énorme, une très très grande pédagogie à faire auprès de, auprès de nos usagers traditionnels, on va dire, et auprès de nos élus de territoire, pour qu'il y ait vraiment cette conscience que oui, c'est tout un chacun qui, c'est à tout un chacun de porter ça et de soutenir ça et de se rendre compte que pour que ces deux mondes ne soient plus parallèles, mais qu'on soit vraiment, on vive avec
ce que vous dites,
le être avec. Et non plus simplement côte à côte, mais vraiment vivre ensemble, ça appartient à chacun. Et oui, pour moi, ça fait vraiment partie du service public. Nous sommes une école de musique associative, nous sommes soutenus évidemment par les institutions et par les subventions publiques. Mais je pense qu'il y a au-delà du soutien moral et financier, je pense que nous avons aussi une pédagogie à faire pour que chacun se sente investi et vraiment ait conscience de ça.
Résonance sur Radio B, handicap et pratique artistique, quelle place, quelle réalité, quels enjeux aujourd'hui dans les territoires de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd'hui plus particulièrement en Haute-Savoie. Je voulais venir vers vous maintenant, Monsieur Revillon, suite à ce que vient de nous dépeindre justement Marie-Astrid Barre. C'est important aussi pour vous que se développe justement à l'échelon de la communauté de communes tout ce travail et cet accès, en tout cas cette proposition d'accès à la musique vis-à-vis de ces publics en situation de handicap à l'échelon de la communauté de communes.
Évidemment, bien évidemment, puisque c'est même une fierté pour nous d'avoir une telle école de musique qui engendre beaucoup de manifestations et qui est aussi le pendant à l'harmonie municipale qui se développe, qui est très importante à Frangy, qui compte 60 musiciens et qui joue même à l'extérieur de international même, puisqu'elle a fait des concerts en Italie et en Allemagne. Donc, mais au-delà de ça, c'est plus la sensibilisation des élus à la culture. Car aujourd'hui, on s'aperçoit dans nos zones rurales, aujourd'hui, on fait un collège, on équipe en équipement sportif, et la culture vient toujours après, et souvent, elle n'y est pas. Donc, c'est de sensibiliser beaucoup les élus au fait que la culture, c'est indispensable pour construire un gamin. Donc c'est pas que le sport, c'est pas que les études, c'est la culture, surtout ces exceptions culturelles. Donc c'est là-dessus que moi je me bats beaucoup au sein de la communauté de communes.
Et qu'est-ce que vous sentiriez comme frein justement? Est-ce que vos collègues élus justement ils ont une préférence pour le sport, pour
le sport?
Alors à cause que c'est les représentations que l'on a aujourd'hui?
Non, c'est que souvent c'est un petit peu de l'ignorance.
Donc de les amener, les accompagner en connaissance.
On les amène aux manifestations et quand ils ont écouté le concert du Nouvel An à Frangy par exemple avec l'harmonie, quand ils sont allés au spectacle de l'école de musique, ils comprennent et ils admettent vraiment que c'est une richesse d'avoir ça sur nos territoires et c'est vraiment très très important. Et puis alors, je ne vous parle pas du handicap, parce que le handicap, aujourd'hui, c'est une contrainte, souvent, dans les équipements. Avant, on n'en parlait pas, on disait, bon, il faut encore investir sur telle ou telle chose pour les handicapés. Et aujourd'hui, on essaye de faire évoluer les choses d'une façon positive en tenant compte tout de suite, quand il y a un investissement, de tout l'aspect handicap. Et moi, j'ai une petite anecdote à vous soumettre.
Oui, je vous en
puisque
prie.
Nous sommes en relation avec des classes du Burkina Faso.
Oui.
Et nos classes, elles s'appellent Pluklis, je ne sais plus comment elles s'appellent maintenant.
Ulysse.
Voilà, donc deux classes sont allées au Burkina Faso avec 9 tonnes de matériel, construire des classes là-bas. Mmh. Et les Africains, eux, ils ne font pas de différence entre les handicapés et les non-handicapés. Et nos handicapés, quand ils sont venus, nos jeunes, ont fait des progrès énormes, énormes au contact de cette non-différence. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre, même de ces pays-là, voyez. Donc, ça m'a toujours interpellé en disant, on fait des choses spécifiques. Bon, il y a comme le centre d'autistes, on est obligé, voyez. Mmh. Mais il y a beaucoup de choses où on pourrait assimiler les classes plus naturellement possible. Voilà ce que je pense. Et je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde, parce que la culture, c'est essentiel dans la construction d'un être humain. Et c'est là-dessus que je me bats beaucoup. Et on arrive à faire évoluer les choses, mais c'est très difficile, c'est long. Souvent, on dit, mais ça coûte trop cher et ça ne rapporte rien. C'est faux, ça rapporte énormément. Parce que quand on fait des manifestations, il y en a. Moi, je fais un concert reggae à Frangy qui a compté plus de 20 000 personnes et qui comptera peut-être 30 000 personnes cette année s'il fait beau.
Mm-hmm. Nous vous le souhaitons.
Où on amène toute la diversité des jeunes ensemble. C'est merveilleux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà.
Merci pour ce témoignage. On voit bien qu'aussi à un moment donné, effectivement, et d'autres élus sont là autour de la table, il y a les acteurs de terrain, on a entendu à des postures importantes d'institutions ou d'associations. Oui, je vous en prie, vous vouliez rebondir.
Oui, je suis heureux de venir dans un centre comme celui-ci, géré par mon collègue maire, parce que c'est vraiment, il y a le collège. Il y a le centre culturel qui est à côté, puis le centre sportif. Mmh. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut absolument atteindre à chaque fois qu'on fait une construction. Souvent, on fait le collège, on fait l'équipement sportif, puis le centre culturel, ben, si on a de l'argent, si on verra
on
bien
fait.
Plus tard.
Mmh.
Voilà. Alors ici, on est vraiment... toutes les conditions sont réunies et je vous félicite.
Il est certain qu'on a, si on veut faciliter l'accès d'une population à ces lieux culturels, la circulation aussi dans l'urbain ou dans le village ou dans l'architectural va être aussi importante, parce que si effectivement celle-ci n'invite pas ou ne conduit pas ou ne permet pas aux uns aux autres de s'y rendre ou de se dire ah oui mais ça existe aussi, effectivement à un moment donné les décalages se font et ça devient des lieux sur lesquels qui remplissent pas totalement leur fonction, en tout cas qui accueille une certaine partie de la population, mais peut-être pas toute la population, où on se dit tout simplement ben, voilà, moi je ne connais pas, je ne sais pas où y aller, ou c'est pas fait pour moi hein, à un moment donné. Peut-être que avec le retour de M. Révillon, peut-être qu'avec vous Laetitia Fricot, nous pourrions aussi continuer à élargir si je peux dire un peu sur l'aspect territorial en ce moment-là, en évoquant plutôt le département. On sait, comme avec la présence de Christiane Dubonnet, de Marie Astrid Barre et puis de Jean-Paul Audiot, que là aussi il y a un schéma départemental des enseignements artistiques qui existent, là qui fait un accord avec l'État, qui fait que les départements ont une responsabilité aussi d'une prise en charge du développement des pratiques artistiques, musique, danse, théâtre, et décide aussi des formes que ça peut avoir, mais que aussi avec ce que nous venons de dire dans le cadre aussi de la loi 2005 et autres, ils ont intégré petit à petit dans ce schéma départemental aussi des enseignements artistiques l'accès aussi aux personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. On est donc très preneur de projets artistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement artistique qui fassent partie notamment du schéma départemental de l'enseignement artistique. On a justement des partenariats qui se sont mis en place avec la clé des US ces années précédentes et puis avec l'école de musique du pays d'Albi. Je pense qu'en effet, on pourra revenir sur un projet, le projet PASS, projet artistique solidarité sociale qui se déroule actuellement sur ce territoire en direction en effet de ces publics qui sont éloignés de la culture. Nous avons une forte volonté de développer des actions culturelles qui facilitent cet accès à la culture pour des personnes qui sont souvent isolées, qu'on n'inclut pas forcément dans des actions culturelles plus globalement ouvertes à tous les publics. Donc on a vraiment ce souhait de développer des projets en direction des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais des personnes âgées aussi qui peuvent avoir une perte d'autonomie ou s'isoler par la vieillesse, mais aussi les personnes qui peuvent rencontrer, enfants ou adultes, hein, des difficultés sociales. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec vous, Monsieur Révillon, la culture est une réelle nécessité en soi pour permettre le bien-être, je pense, et puis un épanouissement de ces personnes et surtout une socialisation aussi, parce que la culture aide à cela et accompagne ces publics. Je voulais dire aussi que, pour vous donner un petit peu des exemples plus concrets de comment on soutient des projets en direction de ces publics, c'est par la plupart du temps par la mise en place d'ateliers de pratiques artistiques qui vont se dérouler dans toutes ces structures en fait d'accueil spécialisées, des ateliers qui peuvent se mettre en place autour de la danse, de la musique, des arts visuels aussi, des arts plastiques.
Des arts plastiques.
Voilà, tout à fait. Donc des ateliers qui se déroulent en général sur une année, qui peuvent toucher des personnes de ces structures, mais qui peuvent aussi parfois réunir des publics extérieurs, parce que l'idée c'est de mélanger les publics aussi, c'est de croiser, c'est de favoriser la rencontre, de pas stigmatiser des publics et de favoriser les échanges, comme je l'ai dit. C'est aussi la mise en place d'une tournée ARPA, c'est-à-dire les artistes qui vont à la rencontre des personnes âgées. Donc là, chaque année, on met en place des spectacles qui vont tourner dans des maisons de retraite. Entre deux et trois spectacles chaque année. Mmh. Et c'est aussi, en fait, l'accompagnement par la formation, notamment de nos médiateurs des sites départementaux, sur les sites patrimoniaux pour pouvoir, justement, déjà mieux accueillir ces publics. On sait que, quand il y a des difficultés pour se déplacer, des difficultés de mobilité, tous nos équipements ne sont pas forcément adaptés, donc on œuvre dans cette direction pour que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de la visite de ces sites par des équipements, mais aussi des visites adaptées.
On voit aussi depuis pas mal d'années le département de la Haute-Savoie a travaillé aussi cette question. Je me souviens qu'il y a peu de temps encore, il y avait je ne sais plus, c'était au bord du lac, il y avait toute l'année dernière une journée que le département a organisée justement autour de toutes ces questions de réflexion et de croisement, de maillage. Donc on voit que ça rejoint vos propos, en tout cas une volonté de pouvoir accompagner et de travailler aussi cette question. Elle est indispensable d'ailleurs, effectivement, en service public, bien évidemment, et c'est tout ce maillage-là qui est important. Peut-être Jean-Paul Audio, et puis peut-être après avec vous, Madame Claire. On sent que c'est aussi le projet d'une équipe, aussi, à un moment donné. On a parlé des familles, et ça, c'était important de construire le lien avec la famille, tant que ce lien-là n'est pas fortement ancré et qu'il y ait confiance, justement, entre l'équipe et ses familles. C'est difficile, effectivement, d'aller plus loin. Et en même temps, la présence, depuis 15 ans maintenant, de ces enfants, et puis des multiplications qui se sont faites, quel effet ça produit aussi sur l'ensemble de l'équipe ? Est-ce que, du coup, il y a quelque chose qui a fait bouger ou faire prendre conscience différemment du projet de l'établissement en tant que tel, ou de qu'est-ce que ça voulait dire d'être en musique ou de la place de la musique aujourd'hui ?
Alors, sur 104 enseignants, par exemple, aujourd'hui, je ne connais pas un enseignant qui peut dire « je refuse d'avoir un enfant handicapé dans ma classe ».
Ça, c'est important.
Même les plus élitistes des enseignants ont accepté de prendre, je prends un exemple, un élève en ce moment est autiste dans une classe. Je n'aurais jamais pensé que ce professeur accepterait un enfant autiste. Ça change beaucoup parce que le regard sur les autres, surtout que nous ne sommes pas habitués à côtoyer forcément des handicapés si on n'en a pas dans des familles, dans nos familles, dans nos voisins. Ça peut nous échapper complètement. On peut traverser des années sans vraiment rencontrer, côtoyer, toucher, embrasser une personne handicapée. Donc je pense que le regard change par ça. Mmh. Et c'est un mouvement. Quand il y a deux enseignants au départ, après il y en a 10, 15, 20 et après tous sont d'accord pour accueillir des enfants handicapés dans leur classe. Je le trouve merveilleux, c'est quand on fait des concerts. On essaie de faire des concerts où on mélange les valides et les enfants handicapés dans le même concert. Et on a eu des expériences absolument magiques où on voit des grands étudiants du conservatoire, alors là en formation professionnelle, qui jouent avec les enfants handicapés. Et il y a deux ans, Karl Nagelem, qui est un compositeur éminent, qui était en résidence au conservatoire, a écrit une pièce pour les enfants handicapés et un groupe d'enfants valides. D'enfants handicapés, pardon. Et ils ont fait une création devant les familles. Alors, je crois que là, on parlait de musique contemporaine, mais je crois que les familles n'avaient jamais entendu musique contemporaine. C'est ça. Mais ils ont été encore plus touchés par la musique contemporaine, de voir leurs enfants investis dans quelque chose d'aujourd'hui qui leur échappait complètement, qui échappe pas beaucoup de public déjà. Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'on a touché les cœurs des familles par ce biais. On a des tas d'actions comme ça. Par exemple, on a les enfants handicapés qu'on laisse chanter. Je dis, on laisse chanter dans les chorales.
C'est important ce que vous dites.
Parce
là,
que, oui, on pourrait avoir des chefs de chœur qui disent, un enfant handicapé qui ne chante pas très bien, qui bouge beaucoup, peut pas être dans un chœur. Donc, dans les chœurs d'enfants, on met les enfants qui sont handicapés. Et on sait qu'il y a une voix qui ne va pas être comme les autres, etc. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ne soit pas toujours dans l'excellence et que, justement, le vivre ensemble, c'est aussi ça. Voilà, donc ça c'est aussi, on a aussi des enfants qui jouent d'un instrument, qui peuvent être dans un orchestre. Alors, souvent ils peuvent être beaucoup plus âgés par rapport aux petits, mais là aussi, vous savez, je crois que les petits, les enfants valides très jeunes, font pas attention au handicap finalement. Donc si on les éduque avec ce regard sur le handicap, il n'y a pas de souci après dans la vie. Je crois que c'est ça qui est important.
Parce qu'on se rend compte que finalement, quelquefois, ce n'est pas forcément la personne qui est handicapée, mais c'est l'environnement qui, quelquefois, pose une situation handicapante. Et que du coup, ça nous oblige à prendre conscience, d'abord à un moment donné ça, et on voit bien que par ce mélange, par toutes ces manières de faire, petit à petit, ça contamine, si je peux utiliser ce terme-là, et que peut-être petit à petit, les peurs tombent aussi un peu, les appréhensions, et puis peut-être ça fait réfléchir, je trouvais que c'était important entre le rapport d'excellence, qui ne veut pas dire non pas exigence artistique, mais que du coup, on peut être dans l'exigence, mais aussi dans comment je vais être à l'écoute du potentiel présent humain, et dans lequel je peux l'accompagner dans cette exigence aussi que représente la création artistique.
Alors, l'exigence, et puis moi je dis l'excellence, quand on parle d'excellence pour tous, c'est l'excellence pour tous, au mieux que puisse faire chacun. Et c'est un mot qui est galvaudé, l'excellence, finalement. Parce qu'un enfant handicapé, il peut être aussi excellent jusqu'au plus haut niveau qu'il puisse aller. Et on a eu des exemples. On a eu un petit saxophoniste trisomique qui a fait des années de saxophone, qui se débrouillait très bien. Maintenant, il est adulte, il travaille, il continue de jouer du saxophone. Donc ça, je trouve ça formidable aussi d'avoir des retours. Ils continuent la musique dans un autre domaine pour eux-mêmes ou alors en collectif, etc. La dernière chose, c'est que depuis un an, on a une troisième enseignante qui est maintenant une formation. Donc là, j'insiste sur la formation des enseignants. Et je suis content d'être en présence des élus parce qu'il faut défendre ça, les envoyer. Là, on a une professeure qui va une semaine par mois à Dijon en musicothérapie notamment, qui avait déjà fait des formations, mais là, elle prépare une licence en musicothérapie pour être une troisième personne référente, très spécialisée. Et elle anime déjà un atelier au conservatoire. Et je crois que c'est très, très important de passer par ces formations. On a fait beaucoup de rencontres avec tous les enseignants. Enfin, vous y avez participé, Alain, souvent, avec les enseignants du conservatoire pour, motiver les enseignants. Dans un conservatoire, ça n'est pas simple. Ils sont nommés cadre A, artistes, associés, c'est presque ça. Ils sont là pour développer un savoir-faire. Ils jouent de leur instrument, ils enseignent l'instrument. Et repenser l'enseignement de la musique pour tous de cette manière-là, c'est pas si simple que ça. C'est pas de la faute des enseignants, c'est de la faute de leur formation. C'est de la faute de l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas penser qu'on accueillerait des enfants handicapés dans les conservatoires. D'ailleurs, même les élus n'y pensaient pas. On a toujours vécu l'école de musique, parce que le conservatoire, c'est un mot générique. L'école de musique, c'est on apprenait, et on apprenait comme le prof avait appris. Et aujourd'hui, on a cassé le moule, c'est-à-dire que l'enseignant, il se remet en question par des formations pédagogiques, et on ne peut jamais faire apprendre comme on a appris. Donc avec les enfants handicapés, ils sont encore en train d'apprendre une autre, d'autres méthodes, de passer par d'autres circuits pour que ça fonctionne. Et là, la pédagogie avance. C'est ça qui est intéressant.
Madame Claire, je trouve que c'est aussi intéressant d'entendre justement là les propos de Jean-Paul Audiot et puis de revenir à votre responsabilité d'élu, mais aussi parce que vous avez une charge aussi vis-à-vis de l'action sociale, alors voilà, plutôt gérontologique, mais en même temps on est aux frontières de tous ces publics.
C'est vrai qu'on associe souvent la culture à la jeunesse.
Oui, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier.
Nos personnes âgées, on pourrait penser qu'elles ont leur patrimoine culturel qui est abouti, alors qu'en fait elles ont encore plein de choses qui les intéressent.
Elles ont plein de pages à écrire encore.
Absolument. Et Mme Fricot parlait donc d'une offre culturelle à offrir aux personnes âgées. C'est vraiment essentiel pour qu'elles continuent à s'épanouir dans leur fin de vie. Et nous, dans notre environnement plutôt rural, donc on a le problème du déplacement de ces personnes qui sont souvent isolées avec leur petit handicap. Donc c'est vrai qu'il nous faut réfléchir à trouver un transport pour leur permettre
circulation, voilà, d'aller aussi.
Une circulation plus aisée, avec des horaires aussi de spectacles qui leur permettraient de ne pas rentrer trop tard, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut travailler. Et je voulais revenir sur le premier atelier dont parlait Madame Dubonnet tout à l'heure, qui s'était déroulé dans une EHPAD, à l'EHPAD de Gruffy, voilà, où j'avais été donc invitée. Et c'est vrai que je n'avais pas l'habitude de côtoyer du public en situation de handicap. Et c'est vrai que l'émotion dont parlait Madame Dubonnet tout à l'heure, moi, ça m'a vraiment traversée. Et j'ai vraiment vu quelque chose d'incroyable. Toutes les barrières que nous avons, personnes valides, quand on s'exprime à travers le chant ou un mouvement, les personnes handicapées ne l'ont pas, cette inhibition. Et elles se laissent complètement aller. Et j'avais vraiment trouvé ça formidable et ça m'avait particulièrement émue.
Peut-être, Christiane Dubonnet, on pourrait rebondir et puis en même temps, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ce projet PASS aussi également. Je pense que ça ferait tout à fait le pont avec Madame Claire sur ce que vous venez de dire et l'importance de ce dispositif. Et en même temps, c'est encore une autre manière d'approcher la chose.
Alors ce projet PASS, il est né d'abord par une action dans les établissements, donc à l'EHPAD et à l'Éridan, et à la suite d'une expérimentation. Alors je reviendrai après sur la participation de l'équipe pédagogique. Mais les élus m'ont dit, c'est très bien ce que vous faites dans les établissements, mais il y a des personnes âgées isolées dans le territoire, et donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme dispositif en route. Donc on a quand même beaucoup réfléchi avec le directeur de l'EHPAD notamment, et on arrive maintenant à ce qu'on a appelé notre PASS 2, donc seconde phase, enfin on va dire deuxième phase, en espérant qu'il y en ait une troisième, on verra. Et donc on a réussi à rassembler un certain nombre de personnes au mois de fin janvier, je crois. Et maintenant, on est parti pour des ateliers de pratique artistique réguliers. Donc le premier a eu lieu ce mercredi dans ce pôle, dans la salle de danse, voilà, qui a réuni donc des personnes en fauteuil, elles étaient quatre, des personnes de l'Éridan, elles étaient deux, et des personnes du territoire, des personnes âgées et des personnes un peu moins âgées. Et donc, moi, je n'étais pas présente malheureusement, mais j'ai eu le témoignage de l'animatrice qui m'a dit que ça s'était très bien passé. Et juste comme monsieur le maire de Frangy a dit, je voudrais juste vous raconter cette petite anecdote. J'ai eu une participante qui m'a dit, une personne âgée du territoire, qui m'a dit, quand j'ai vu Corinne, qui est donc l'animatrice, s'occupait de la personne handicapée qui pouvait à peine bouger ses mains, parce que ce sont des handicapés quand même qui sont lourdement... des handicaps lourds. Elle m'a dit, mais moi, je suis riche. Et elle a vraiment découvert quelque chose. Et comme vous disiez, Gilliane, voilà, je crois qu'elle a encore un chemin possible et c'était formidable de l'entendre dire ça. Alors je voudrais revenir à l'équipe pédagogique juste parce que donc, à l'inverse de Marie-Astrid et peut-être de M. Audiot, on s'est lancé un petit peu sans filet. C'est-à-dire qu'on en a discuté en équipe pédagogique. On a commencé par une rencontre interprofessionnelle avec les trois établissements. Et on a quand même réfléchi avec une psychomotricienne, etc. Et donc, quatre profs de l'école de musique se sont lancés dans une expérimentation qui était bien ciblée dans le temps.
Bien ciblée dans le temps,
voilà. Ouais. Et donc, à la suite de cette première expérimentation, deux se sont mises en formation d'elle-même, mais carrément pour aller peut-être plus loin, ou je ne sais pas, aller différemment que l'enseignement musical, plutôt la musicothérapie, vraiment. Mais du coup, maintenant, on est dans cette réflexion phase B. Voilà.
Là, on voit ce que soulevait Jean-Paul Audiot, voilà. L'importance de l'accompagnement, exactement, la formation aussi des enseignants pour pouvoir s'ouvrir à tout ce qu'engage être en musique avec ses publics.
C'est ça, exactement.
Vous vouliez rebondir peut-être, Monsieur Archivard, là-dessus ?
Oui, tout à fait. Pour dire que finalement, on a le sentiment qui semble partagé par tous, c'est que autour de la culture, autour des pratiques artistiques, oui, on se recentre sur l'humain et on retrouve un peu tous un peu d'humanité. Les regards changent. Ces personnes retrouvent peut-être une existence plus pleine. Et effectivement, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est vraiment aux institutions publiques d'accompagner, de porter le plus possible ces actions, hein, de façon à ce que les initiatives privées, telles qu'elles se sont construites, puisque c'était dans un cadre associatif, mais pour notre projet PASS, c'est vraiment des professionnels, comme a pu l'évoquer Madame Dubonnet, qui se sont préoccupés, qui ont eu cette préoccupation originale, mais finalement essentielle, que l'on devrait tous avoir. Et puis les élus ont accompagné avec le conseil départemental. Ça a été aussi, je crois, l'occasion d'un renouvellement de pratiques pédagogiques. C'était évoqué tout à l'heure. Hein.
En tout cas, ça nous oblige à revisiter les manières, voilà, de transmettre et de qu'est-ce que c'est que transmettre de la musique et de faire de la musique et la relation surtout de celui qui est le transmetteur à celui qui peut être. Peut-être c'est comment aussi, on pourrait peut-être dire ça, comment on peut peut-être permettre que celui qui est là en termes de passeur puisse à une intelligence se révéler, quoi, finalement. Et dès qu'une intelligence se révèle, au travers de cette rencontre entre deux individus, chacun avec leurs compétences, chacun avec leurs intelligences, mais comment elles se rencontrent, comment elles font qu'elles vont pouvoir s'ouvrir et se développer.
Oui, et c'est ce temps de rencontre qu'on a presque le devoir d'organiser autour de la culture, autour des pratiques artistiques, ce temps de rencontre qu'il faut favoriser, en tout cas au niveau des services publics ou des institutions publiques. Oui.
On arrive bientôt au terme de notre émission, mais qu'est-ce qui vous semblerait les uns, les unes et les autres, peut-être d'important aujourd'hui en termes d'étapes ? On a posé du fond, et chacun à partir des expériences, de la place des élus, des uns et des autres, mais qu'est-ce qui vous semblerait aujourd'hui, dans l'état actuel de vos connaissances et de votre expérience de terrain d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semblerait comme priorité ? Jean-Paul Audiot.
La formation des enseignants,
la formation
obligatoire
des enseignants
pour tous. Je pense que dans les formations des enseignants, dans les centres de formation des diplômes d'État, la formation des certificats d'aptitude dans les deux conservatoires supérieurs de musique de Paris et de Lyon, des pôles supérieurs, je crois qu'il faut qu'il y ait une formation obligatoire pédagogique pour le handicap. Sinon, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que ce sera toujours à la volonté des chefs d'établissement qui auront sollicité leurs services de DRH, puis les élus pour avoir. Mais au départ, il faut former les gens comme l'ESP, j'espère, dans l'éducation nationale le fait, puisqu'il y a quand même des spécialistes. Mais je crois que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des spécialistes, surtout dans des écoles plus petites. Je crois que c'est toute l'équipe qui doit s'y coller. C'est le cas de le dire. Et c'est la chose la plus importante. Donc c'est au niveau de notre ministère de la Culture qu'il faut que l'on change la formation.
Pour vous, Monsieur Argenard, qu'est-ce qui serait, à votre avis, dans les priorités aujourd'hui ?
Oui, je crois que effectivement, donc sur la partie pédagogique, je partage complètement ce point de vue. En termes de mission de service public, je crois que nous, ce soir, dans le cadre de notre programmation culturelle, on a souhaité mettre l'accent avec les percussions très fortes sur ces possibles et sur ces regards à renouveler, en tout cas sur les personnes handicapées. Je crois que il ne faut pas que ce soit des opportunités, il faut que ce soit un peu notre quotidien aujourd'hui à faire vivre. En tout cas, dans les programmations culturelles, je pense qu'on aurait un fort impact. En tout cas, nous, on l'a vécu très concrètement à chaque fois qu'on a pu être confronté à ce type de spectacle.
En tout cas, on voit que c'est un échelon, effectivement, dans l'ordre de la diffusion culturelle, qu'il y a une présence beaucoup plus au sein de celle-ci de réalisations qui mélangent ou qui soient produites par des personnes, des artistes en situation de handicap, en tout cas, qu'elles soient aussi la démonstration d'une réalité de cet existant, en tout cas. Pour vous, Christiane Dubonnet, les urgences ou les priorités qui seraient là à vos yeux ?
Alors moi, j'en verrai deux. À titre de directrice d'une école de musique, je souhaiterais vraiment qu'on puisse continuer à faire vivre davantage les élèves de l'école de musique et tous ses publics, parce oui. que pour le moment, pour nous, c'est encore pas effectif. Et donc, vous me parlez tout à l'heure d'un enregistrement, enfin d'une œuvre contemporaine à faire travailler avec les élèves de percussion. Pour moi, ça, c'est une des priorités, c'est certain. La deuxième chose pour moi qui est vraiment fondamentale, c'est comment. Vous parlez tout à l'heure d'exigence, et je crois qu'il y a un vrai objectif à parler d'exigence dans notre société d'aujourd'hui, où les offres culturelles, artistiques, musicales sont tellement diverses. Et pour moi, c'est une question fondamentale. Je ne sais pas y répondre pour le moment. Mais en tout cas, nous, avec les élus, on va essayer de proposer aux équipes éducatives de maternelle et de primaire de venir à une conférence de M. Bigan. Donc, tout à l'heure, vous parliez de l'Université de Bourgogne. Donc, M. Bigan, c'est un des maîtres de conférences de LAVO. Il va venir faire une conférence sur l'importance du cerveau musicien.
Ça va être passionnant.
Voilà. Et donc, on s'est dit, peut-être que c'est le moyen de toucher les enseignants à cette réalité de la musique et après de l'exigence. On verra.
Pour vous, M. Révillon, en tant qu'élu et responsable de la communauté de communes, vos priorités par rapport à toute cette question qu'on a abordée aujourd'hui, bien sûr, d'une manière sans sache, on est bien tous conscients les uns les autres beaucoup plus le temps, on pourrait en parler plus longuement, mais qu'est-ce que vous dégageriez pour vous, à votre niveau, comme priorité ?
Bien, nous, on aimerait déjà avoir plus de moyens, parce que aussi, c'est les moyens. Quand on n'a pas les moyens, c'est très difficile de mettre des structures en place de qualité. Et quand on voit... comme ils se battent aujourd'hui pour arriver, comme Astrid, à faire tourner la machine, c'est avant tout des moyens, et pas oublier les zones rurales, bien entendu, ne soit pas concentré que sur les grands pôles urbains. C'est un peu ça qu'on voit. Et aujourd'hui, je dirais, faut pas partir à tous azimuts dans tous les sens. Faut partir à partir des structures qui y sont, et on avance à petits pas. On essaye de construire quelque chose de pérenne. Et ensuite, on va plus loin, toujours de plus en plus loin. Faut pas vouloir tout avoir la folie des grandeurs et dire on veut comme tel endroit. Il faut se satisfaire. Nous, on a la chance d'être dans un territoire, et à Frangy, on développe beaucoup la diversité culturelle. Il y a du théâtre, il y a des artistes, il y a des chorales, il y a la musique, tout ça. Donc on soutient déjà ça. Et après, si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Voilà, donc...
Soutenir pas à pas.
Pas à pas, et c'est comme ça qu'on avance.
Et peut-être pour vous, Laetitia Fricot, dans cette vision un petit peu plus générale, territoriale, à l'intérieur du conseil départemental, vous avez déjà exprimé certaines directions qui vont se mettre en place. Est-ce qu'il y a des priorités plus particulières que vous sentez venir au sein des élus au niveau départemental ?
Alors oui, moi je verrais trois priorités, notamment celle d'être au plus proche des structures qui accueillent ces publics éloignés, ces publics dits empêchés, être plus proche par l'accompagnement notamment, et les aider à impulser des initiatives de projets artistiques en direction de ces publics-là. Je verrais aussi l'idée de développer davantage de projets transversaux, et notamment en lien avec les établissements d'enseignement artistique. On a un vivier de lieux ressources musique sur le département, je crois qu'on peut sincèrement développer des projets musicaux en partenariat avec ces structures auprès de ces publics-là. Et puis, dernièrement, je pense qu'il est important aussi qu'on pense des projets avec les structures du département, dans cet objectif justement de mixer les publics, donc de penser des projets multipartenariaux où on va mélanger les publics et créer cette rencontre et cette socialisation des personnes toutes confondues. Voilà.
Et en quelques mots aussi pour vous, Marie-Astrid Barre, les priorités qui se font jour pour vous maintenant ?
Alors, en ce qui concerne très précisément le projet qui nous concerne à la Clé des Us, notre priorité, ça va être de développer notre dispositif justement pour avoir une réelle mixité dans les usagers de notre établissement,
pour une vraiment une inclusion vraiment au sens propre du terme, et avec aussi en visée pouvoir participer à ce dont je parlais tout à l'heure, à la pédagogie, à ce que ça puisse que les gens puissent voir le et mieux le comprendre, pour que ça devienne une volonté politique, parce que pour l'instant tout part du terrain, tout part de l'action. Et c'est qu'une fois que l'action est en place, c'est qu'on aimerait pouvoir pérenniser l'action, qu'on a, que, ben voilà, nous ne répondons pas à une volonté politique, mais on a envie que le territoire nous suive, qu'il y ait un accompagnement et qu'il y ait une réelle prise de conscience. Alors la priorité absolue pour moi, elle est là, c'est une prise de conscience et un réel soutien, une réelle volonté politique. Après, il y a des choses à mettre en place pour ça, et c'est notre job.
Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. On pourrait poursuivre encore largement, on le sent bien, tout à fait, cet échange passionnant. Je vous rappelle, chers auditeurs, que cette émission a été enregistrée le 27 avril dernier au pôle culturel et sportif d'Albi-sur-Chéran. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Nicolas Goyon à la réalisation et de Nicolas Galliot à la régie générale. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter quand vous voulez, quand vous le souhaitez, où vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.